4 euros.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud, pouce d'épinard. Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h, midi 30, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Bien le bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Installez-vous, hein. Des conseils, des débats, de bonnes adresses et les coups de fourchette de nos invités. Voilà le menu jusqu'à midi et demi. C'est bientôt Noël, hein, je ne vous apprends rien, alors on va vous aider à bien préparer le réveillon. Nous allons faire notre marché en Provence, au pays des Santons. Tiens, vous n'avez peut-être pas fini votre liste au Père Noël. Eh bien, la table des bons vivants vous a fait une belle sélection de livres de cuisine. Vous êtes en train de finaliser votre menu de réveillon ? Ça tombe bien, on a convoqué la tradition avec une jeune chef lyonnaise inventive. Et puis nous avons un bistronome en chef qui sera des nôtres. Il y aura de la poularde, il y aura des marrons, du gratin de cardon. Enfin, je ne vous dis pas tout. Voici mes bons vivants du jour. Pour Noël, elle préfère les huiles et les crèmes de bonté aux cosmétiques. C'est Charlotte Langrand du journal du dimanche. Bonjour Charlotte.
Bonjour Laurent, et à la fin.
Attention, bien sûr, et la fin. Nous, on est très nombreux à avoir faim. Je ne sais pas si c'est l'approche de Noël ou quoi, mais fils de charcutier, il a déjà commandé son cochon entier au Père Noël. C'est le bistronome en chef Yves Candebordes.
Bonjour Laurent, Yves. Bonjour Charlotte.
Ah, bonjour Yves.
Laurent, je n'ai pas commandé le cochon, j'ai commandé la dinde. C'est la dinde.
Ah ben on en parlera parce que la dinde revient en force, figurez-vous, sur les tables. Et la comédienne Alexandra Lamy viendra partager une bûche avec nous. Oui, une bûche ultra facile à faire, sans cuisson, avec un jeune artisan boulanger-pâtissier qui a de belles idées, vous entendrez. Petit rituel, vous le connaissez à la table des bons vivants, que vous soyez en voiture, à la maison ou en train d'écouter le podcast. Je vous pose la question, quel est votre goût de la semaine ? Ça m'amuse parce que vous m'en parlez souvent quand on se croise dans la rue du goût de la semaine. Donc voilà, vous aimez bien les entendre. On va commencer par vous, Charlotte.
Alors moi, mon goût de la semaine, il est assez régressif parce que je suis très, très contente que reviennent les feuilletés charcutiers dans les bistrots. Ça, c'était un peu l'apanage des traiteurs pendant très longtemps. Parfois, ça a été un petit peu malmené. Et je vois beaucoup de friands au jambon fromage. Vous voyez ?
Ces bons friands qui
dégoulinent avec, on espère, du bon jambon, du bon fromage et une bonne sauce, peut-être béchamel, peut-être autre, hein, ça dépend des recettes. Et si vous voulez vous essayer pendant les vacances à le faire, c'est pas si difficile que ça. Il y a deux livres, le livre du meilleur ouvrier de France, Sébastien Zozaillard, et évidemment ceux des Vérotes. C'est deux livres aux éditions du Chêne.
Père et fils, les Vérots, vous voulez
oui,
dire. Hein,
père et fils.
Charcutier parisien. Votre goût de la semaine, cher Yves.
Ah, mon goût de la semaine, c'est la confiserie de saison par excellence. Je suis descendu fêter l'anniversaire de ma maman à Pau. Là, il y a 10 jours.
Voilà un bon fils.
Et chaque année, quand je vais fêter son anniversaire, je ne peux m'empêcher d'aller à la chocolaterie La Couronne, qui se trouve sous le palais Beaumont à Pau, et d'acheter un marron glacé.
Ah oui.
Alors c'est vrai que c'est onéreux, mais c'est vrai aussi que c'est un travail qui est très délicat et surtout qui est très précis et difficile à faire. Mais qu'est-ce que c'est bon.
Mais on n'est pas obligé d'en acheter énormément.
Oui.
Un simple marron ou deux font vraiment déjà la fête. Bah,
hein. Et vous savez que pour nos cadeaux de Noël, le premier cadeau qu'on avait avec mon frère Jean-Marc et Philippe, nos parents nous offraient un marron chacun.
Et, bah voilà.
Et c'était peut-être le plus beau cadeau parce que vous le mettez en bouche. Il y a du croquant, il y a du soyeux, il y a du fondant et il y a ce côté sucré qui réapparaît avec toujours peut-être une petite pointe d'alcool qui amène beaucoup de fraîcheur.
Oui, la rareté est festive, voilà. Et elle est précieuse.
Et la confiserie de saison.
Absolument.
Restons dans les saisons.
Ah bah, qu'il dites-vous.
Et vous, Laurent ?
Mon goût de la semaine, bah écoutez, c'est léger, végétarien, on va dire, avant les agapes qui nous attendent. J'ai fait un curry de patates douces, des patates douces taillées en morceaux que j'ai fait cuire longuement avec des tomates concassées en boîte, du lait de coco, et j'y suis allé sur les épices, du curcuma, du curry, du tandoori, du gingembre frais, de la coriandre émincée. Vous faites ça en cocotte ou au robot à la maison si vous en avez un, c'est ultra facile. Un curry de patates douces, on mange ça avec un quinoa ou avec du riz blanc, c'est parfait ça.
Oui, et puis c'est vrai que la patate douce aussi c'est un peu régressif en ce moment. On a des températures qui sont très brasses, ça amène beaucoup d'onctuosité,
de la rondeur.
C'est ça.
C'est très digeste.
Et c'est très digeste.
Allez, c'est l'heure d'aller au marché les amis. Cette semaine, direction le marché de Noël de la Garde, à côté de Toulon, vous savez, dans le Var. Eh bien on est en Provence et les 13 desserts, vous pensez bien, sont de sortie. Petit inventaire au micro de Frédéric Michel.
En Provence, c'est une tradition. On prend du nougat blanc et on prend du nougat noir pour les 13 desserts de Noël.
Il y a quoi ? Les amandes, du nougat,
des mandarines,
des fruits secs.
Ça porte bonheur en plus. Oui, on compte les noix, les noisettes.
Les tiges, les dattes.
Oui, oui, on compte tout. Hein.
Mais j'aime bien les clémentines, il y a un peu du jus qui coule quand on les croque en bouche.
Elle fait des produits excellents.
Qu'est-ce que vous avez pris alors ?
Bon, les pâtes de fruits pour moi.
Des orangettes et des fruits confits.
Là, j'ai pris du nougat.
Les calissons aussi.
Chez moi, on vient chercher le calisson qui fait quand même partie des 13 desserts.
Ah, c'est les gros calissons.
C'est le calisson géant. Alors, j'ai mon traditionnel à la crème de pistache, un demi-mètre. Après, j'ai le calisson donc à la figue, cassis citron et mon traditionnel avec le chocolat vu qu'on est en période de Noël. C'est les parfums d'enfance.
Ah, les calissons, les parfums d'enfance, vous avez bien raison. Le marché de Noël de la Garde est ouvert jusqu'au 31 décembre, hein, si vous êtes dans le coin, donc vous avez le temps de faire le plein. On n'a pas fait les 13 desserts, là, mais vous les connaissez, tiens, les 13 desserts, Charlotte,
Yves ? Écoutez, on peut essayer. Il y a ce bien nommé pompe à huile.
Oui, la fameuse pompe à huile.
C'est ça, la fameuse pompe à huile. Il y a les mendiants, le nougat, comme on a dit.
Oui, il y a les dates, les pâtes de quoi. Mais après, on ne peut pas dire qu'il y a 13 desserts bien précis.
C'est officiel,
voilà. Voilà. Mais ça dépend un peu aussi des régions, ça va dépendre aussi des familles. Donc c'est vrai qu'il y a, c'est surtout des sucreries qui étaient un peu en abondance à cette époque de Noël. Mmh. Ça vient de la paysannerie. C'était pour eux aussi voilà, une forme de reconnaissance et de réconfort d'avoir tous ces sucrés autour d'eux.
Puis
c'est comme votre
aussi.
Histoire du marron glacé un peu. Hein. C'est justement le réconfort aussi après une année de travail.
Oui, et puis c'est vrai que cette douceur que peut apporter tous ces desserts avec leur spécificité et leur caractère, voilà, amène de la joie, de la bonne humeur et de l'envie.
Il y a beaucoup de fruits aussi un petit peu exotiques, un kiwi, une mangue, des fruits de saison aussi. Puis tout ça, en fait, c'était traditionnellement dégusté après la messe de minuit.
Oui,
la récompense.
Comme souvent, ces traditions ont toujours une connotation religieuse. Voilà. C'était une offrande le premier jour de Noël qu'on donnait au peuple, qu'on donnait à la paysannerie.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Attention, information de la plus grande importance, Noël c'est dans une semaine, vous n'avez pas fini votre liste et vos emplettes, eh bien séance de rattrapage avec des livres culinaires choisis par la bande des bons vivants et par toute la rédaction, Lucille Escourou, Julien Amat, Marion Sauveur, même Claire Dutronc lit des livres de cuisine depuis qu'elle est avec nous absolument, donc vous allez voir, Loïc Vimard a mis son grain de sel, enfin tout le monde a fait une belle petite sélection. Alors depuis le début de la pandémie, c'est vrai que le nombre de livres de cuisine a explosé, hein. Plus de 1000 livres de recettes sont édités chaque année en France. Nous en lisons des centaines tout au long de l'année. Des recettes, de l'histoire, des terroirs, des découvertes. Il y en a pour tous les goûts. On commence avec vous, Charlotte. Direction le sud-ouest.
Oui, c'est difficile de tous les départager tellement il y en a effectivement. Moi, je voulais parler de Basque, de Pascal Arcé. C'est un hôtel-restaurant situé au Pays Basque, dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est une maison authentique depuis plusieurs générations, située au pied du col d'Ispegui.
Saint-Étienne de Baïgorry.
Exactement. Et alors, si vous voulez, c'est rare quand même, enfin c'est rare, non c'est pas si rare que ça, mais c'est agréable d'ouvrir un livre et d'avoir immédiatement envie d'aller découvrir cette cuisine et de foncer là-bas et aussi de se mettre au fourneau. Alors c'est très viandard, c'est très traditionnel, c'est rustique, c'est nature, c'est très gourmand.
C'est rustique mais très très bien
très
fait
bien
avec
fait.
De la subtilité. Oui.
Exactement. Alors par exemple une truite de banca en carpaccio, des chipolatas et du jambon frit, des pieds de cochon, de la tête de veau sauce gribiche, du gâteau basque. Franchement je vous le conseille, c'est aux éditions de La Martinière.
C'est une maison ancestrale hein, depuis plusieurs générations.
Alors, c'est une maison ancestrale depuis plusieurs générations. On pourrait croire que c'est une maison très traditionnelle, mais c'est pas du tout ça, parce que donc c'est là.
Exactement.
C'est les fils qui ont repris et qui ont amené justement cette touche d'intelligence, le côté contemporain, sans dénaturer la tradition, mais en amenant peut-être plus d'onctuosité, plus de longueur de palais, plus de légèreté. C'est un renouveau de la cuisine du Pays Basque. Il donne vraiment les lettres de noblesse à cette excellence et à cette puissance que peut avoir ce caractère basque.
Pascal Arcé en cuisine, c'est aux éditions de La Martinière. Alors j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois moi dans cette maison. Et Pascal Arcé, vous savez ce qu'il fait à sa carte, il a une recette magnifique, ce sont les truites au bleu. Il y a un vivier juste dans la rivière qui est au pied de l'auberge. Il va choper la truite comme ça dans le vivier et il vous la cuit au bleu dans un courbouillon comme ça. Et effectivement, c'est délicieux. Ah ben, j'adore.
C'est vrai que c'est une réaction chimique. Voilà, la truite devient bleue. C'est d'une beauté, c'est d'une subtilité. On dirait pratiquement un tableau contemporain quand on voit cette recette.
Alors, je voulais aussi vous parler des livres de cuisinières, parce qu'on ne les appelle pas chefs, parce qu'elles n'ont pas de restaurant. Et c'est un peu dommage, parce qu'elles signent de très bons ouvrages, accessibles, pas crâneur, avec une cuisine personnelle, familiale, parfaite pour les tester en ce moment pendant les fêtes, si vous êtes à la maison. Je voulais vous en citer quelques-uns rapidement. Vous avez Dans ma cuisine d'Elvira Masson, vous avez La cuisine en partage de Sonia Esgulian, vous avez L'épicerie naturelle maison de Jennifer Hart Smith, Les bouillons gourmands de Keda Black, s'il vous plaît, L'atlas des épices de Bina Paradin, vous avez La brioche de nos rêves de Déborah Dupont-Daguet, Le chou de Bruxelles d'Anne-Hétor, et pour finir...
Et qui a dit qu'il n'y avait pas de filles en cuisine.
Voilà, s'il vous plaît.
S'il vous plaît.
Et pour finir, vous avez le livre de cuisine, c'est une réédition du livre assez historique de André Zana Murat. Il y a quand même la bacadelle de 1500 recettes, s'il vous plaît. Donc, achetez-les.
Votre sélection, chère Yves.
Alors moi, j'ai vraiment une sélection complètement différente de celle de Charlotte. Et c'est pour ça, c'est tant mieux. Vous avez parlé de livres à dévorer.
Oui.
Alors, moi, je vais vous présenter une bande dessinée. Et l'étiquette qu'il y a dessus, c'est « Se lit avec le ventre ». Alors, ça vient de chez Hachette Cuisine. Et l'histoire du livre, c'est deux copains qui, pendant le confinement, alors, il y a un cuisinier, Roland, et un dessinateur, Théophile, qui ont passé leur confinement ensemble, qui ont cuisiné avec abondance, et voire même, ils ont fait pratiquement des banquets. Et ils se sont dit, pourquoi on ne le mettrait pas en bande dessinée ? Et ils
ça ont s'appelle sorti, Banquet. Hein,
ça s'appelle Banquet, donc c'est Cuisine Hachette. Et ils ont sorti une bande dessinée qui est assez incroyable.
Alors, grand format.
C'est un très grand format. Chaque double page, c'est une recette. Allez. Et alors, qui est illustrée. Alors, ça paraît au départ un peu fourre-tout. Mais quand vous y penchez dessus et que vous lisez, il y a vraiment une recette qui est très simple.
Ah, l'épaule d'agneau façon naufragée. Ça, ça me plaît bien, ça.
Qui est vraiment... Alors, il y a beaucoup d'humour dans les explications. Il y a beaucoup d'humour, bien sûr, dans les dessins. Et en plus, ils ont l'intelligence de proposer un vin systématiquement. Chaque recette, c'est une petite histoire qui est contée. Ça m'a fait rigoler. Ah, alors, au départ, je pensais que c'était simplement...
Ventrèche de thon, caviar de citron, caviar. C'est beau, ça.
Je pensais que c'était simplement une bande dessinée. Et quand j'ai lu, je me suis rendu compte que c'était certes une bande dessinée, mais surtout des vraies recettes de cuisine.
Banquet, ça s'appelle.
Ça s'appelle Banquet et c'est Hachette Cuisine.
Un autre livre,
alors,
Yves.
Alors là, je me suis amusé à aller dans un classique. Voilà, j'ai retrouvé, dans une librairie, un grand classique qui vient des Cahiers du cinéma. Ça s'appelle « La sauce était presque parfaite ». Alors, c'est un livre. C'est 80 recettes d'après Alfred Hitchcock. Ils ont pris systématiquement donc, un des films d'Alfred Hitchcock et ils en ont fait une recette. C'est marrant. Les recettes sont très intéressantes et sont très simples. Mais surtout, systématiquement, il y a une petite histoire qui nous replonge un peu dans le monde d'Alfred Hitchcock.
Et ben voilà. Et un dernier pour la route.
Le dernier.
Il faut toujours finir sur une note sucrée.
C'est une note sucrée qui est pour moi et la plus belle pâtisserie de Paris. Certes pas la plus connue, celle de Karl Marletti. Il a fait un livre chez Marabout qui s'appelle tout simplement Pâtisserie. C'est très bien écrit, c'est très bien expliqué. C'est suffisamment moderne, mais pas trop compliqué. Je me suis amusé à faire quelques recettes à la maison. J'ai fait mon caramel au beurre salé, j'ai fait ma sauce caramel. Je peux vous assurer que c'est facile à faire et surtout... Il pense qu'à une chose, c'est au goût. Et ça, c'est le plus important.
Et comment qu'il est important le goût? Et vous aussi, chers auditeurs, vous en avez du goût. Vous nous l'avez dit sur le groupe Facebook des Bons Vivants. Au hasard, tiens, Sandrine qui nous suit aime comme livre La cuisine du 6e étage de Nathalie Georges. On l'a reçu ici déjà, effectivement. Ouais. Zoise a commandé Les sauces d'Éric Trochon. Ça, c'est un livre magnifique. Et Patrick a choisi Cuisiner bien accompagné avec ma méthode mentor. C'est le dernier livre du chef Philippe Etchebest.
Europe 1, la table des Bons Vivants. Laurent Mariotte.
J-6 avant le réveillon, J-7 avant le repas de Noël. Je le sais, hein, tout le monde n'est pas encore prêt. Alors nous allons faire un petit inventaire des recettes de fête avec la bande. Il y a du festif, du bon marché. En tout cas, on vous a fait du rassembleur, un menu rassembleur. Et bien entendu, nous pouvons compter sur notre bistronome en chef, Yves Candebordes, toujours inspiré en période de Noël.
Ah, c'est plus qu'inspiré, c'est très gourmand. C'est vrai que c'est pour moi, c'est une période de l'année qui est très festive.
Alors, votre accent vous trahit, hein, tout le monde le sait. Vous représentez le sud-ouest malgré vous, si je puis dire maintenant.
C'est un honneur.
Vous avez un peu migré vers le sud-est
Laurent, j'ai l'Adour qui coule dans mes veines.
La double origine, sud-est et sud-ouest, c'est bien. Et pour jouer la compétition, eh bien, j'ai invité une jeune chef que nous aimons beaucoup à la table des bons vivants. C'est Marie-Victorine Manoa, la chef lyonnaise d'origine. Et c'est la chef du restaurant Au Lyonnais, la belle table d'Alain Ducasse dans le 2e arrondissement de Paris. Bonjour Marie-Victorine.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci
bonjour,
d'être là. Je le disais, une vraie chef lyonnaise, on pourrait presque dire, et c'est un compliment, une jeune mère lyonnaise.
Ouais, c'est un compliment. Hein, c'est un compliment.
Vous
je
ne
suis pas
lignée.
Encore mère et c'est un très très joli compliment. J'essaye de de devenir une mère lyonnaise, ça serait le Graal. Ouais.
Qu'est-ce que ça évoque pour vous le réveillon du 24 ou le repas du 25 à midi, sachant que vous êtes fille de restaurateur?
Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai été un peu à mauvaise école. Donc, disons que pour moi, Noël, c'est vraiment un moment hyper important, surtout pour manger, pour se rassembler, etc. Et je pense que Lyon, on est quand même une région qui est bien servie pour les repas des fêtes. Lyon et ses alentours, enfin, on a la Bresse autour pour les volailles, on a des poissons de rivière, on a les champignons, on a les marrons d'Ardèche. Enfin, c'est quand même une super région pour fêter Noël. Donc, c'est vraiment une période que j'affectionne beaucoup.
Vous avez un souvenir en particulier, vous, du repas de Noël en famille ?
Souvenir particulier, manger et rester en famille pendant des heures et des heures et des heures et des heures, quoi. Ouais.
Mais il n'y avait pas un plat typique rassembleur ?
Plat typique rassembleur, on faisait beaucoup de volailles de Bresse, des choses comme ça, des produits d'autour de la région. Je pense que chacun fait un peu les produits qu'il y a autour de chez lui. Du coup, c'est beaucoup de terrine, beaucoup de pâté, beaucoup de cochonailles, forcément.
C'est ouais. Quoi votre souvenir, vous, le fils d'artisan charcutier, Yves, dans le Sud-Ouest ?
Quand j'entends les gars du Sud-Est parler des repas de Noël, bon, je leur dis, ouais, c'est pas mal, c'est vrai que c'est pas mal. Pour reconnaître qu'ils ont quand même des valeurs. Mais chez nous, c'est le banquet, quoi. C'est l'excellence, c'est le parfait. C'est le parfait. On a les Pyrénées, hein. On a le Gave de Pau et l'Adour qui passent pas loin. Là, c'est la réunion de toute la famille.
L'Adour, je suis d'accord pour le saumon, là. Nous, on a de la truite, bon, ok.
La bataille est partie, là.
Papa et maman ont travaillé beaucoup, mais voilà, le 25, on savait qu'à 16h, on allait se mettre à table. Voilà. Et là, il y avait les bergers qui descendaient, les tontons, les tatis, les cousins, on se retrouvait à 25-30. Et alors, l'astuce qu'avait papa, parce qu'il voilà, savait qu'on avait envie de manger chaud, mais on n'avait pas envie de manger trop cuit. Très souvent, il faisait des plats luthés.
Ah oui, lutter, c'est en cocotte avec la pâte autour.
La pâte, ce qui permettait de garder voilà, une cuisson. Voilà, souvent, c'était des cuissons un peu voilà, compotées, un peu de cuisiner, de la profondeur. Et s'il était à retard ou si l'apéritif au Jurançon traînait, voilà, le plat se sublimait.
On est là pour vous donner des idées hein, pour le repas du réveillon. On va débuter l'apéro. Marie-Victorine, tiens, la parole est au terroir lyonnais. Qu'est-ce que vous nous sélectionnez ?
Alors, nous, on commence par manger un petit peu de Jésus de Lyon. Parce que c'est un...
C'est Noël, c'est normal.
Exactement. C'est les parties les plus nobles qu'on garde. Ce sont... Bah ouais, mais le Jésus, ça ressemble à un petit enfant emballoté. Et en fait, non, mais le nom est symbolique. Manger du Jésus le jour de la naissance de Jésus, c'est très drôle. Ça fait rire beaucoup
Yves Condebord.
Je te remercie pour ça. Mais, mais voilà, à l'apéro, on mange un peu de Jésus, de la truite un peu fumée, des choses comme ça.
Vous, dans le Sud-Ouest, Yves ?
Mais la grosse différence qu'il y a avec Marie-Victorine et son Sud-Est, c'est que chez nous, on a la mer.
Voilà, ouais,
c'est
ça, quand même, ça, voilà.
Ça, ils pourront dire ce qu'ils veulent. Nous, c'est, la perfection n'est pas loin. Et étant donné qu'on a le bassin d'Arcachon qui n'est pas très loin, et le bassin d'Arcachon nous fait des perles, des huîtres exceptionnelles, alors on adore l'huître tout simplement, juste avec, accompagné de petites crépinettes, c'est-à-dire d'une farce de porc sauté. Ou alors on s'amuse aussi à la mélanger avec un peu, en faisant une tartare d'huître, en y rajoutant une petite Saint-Jacques, un morceau de poisson.
Ah, c'est bien ça.
Voilà, on prépare nos repas, nous on a besoin de fraîcheur pour démarrer nos repas.
Charlotte, l'année dernière, vous nous aviez parlé de la tendance du sapin en cuisine chez les chefs. Est-ce que ça continue cette tendance ?
Oui, c'est pas si gadget que ça, hein. Ça s'utilise un peu comme un condiment, comme une épice. On peut, les chefs en font des huiles, des vinaigres, des infusions. Il y a énormément de choses à faire. Et là, je suis allée récemment chez Emmanuel Renaud, un chef, qui en fait aussi de la farine un peu résineuse comme ça. Donc, on pourrait faire par exemple des biscuits de Noël juste avec cette farine. Ça change tout en fait. C'est pas très difficile.
Vous l'utilisez le sapin en cuisine ?
Ouais, je l'utilise. Au printemps, on récupère les petits bourgeons de sapin ça peut se garder. Après, pour Noël, non, j'utilise pas. En fait, on fait pas vraiment ce genre de cuisine. Hein. C'est cuisine vraiment traditionnelle avec les produits qu'on a. Les petits bourgeons de sapin au printemps, c'est assez intéressant. Mettre en vinaigre ou choses comme ça, on peut les cueillir.
Exactement.
Moi, ça vous m'inquiétez quand même parce que vous mangez le Jésus, vous mangez le sapin, vous allez vous arrêter où, quoi ?
Une idée d'entrée incontournable du côté de Lyon, tiens, pour vous, Marie-Victorine.
Quand même, Laurier de la Belle Aurore.
Ah oui, charcuterie magnifique.
Ouais.
Ça, c'est faut aller chez l'artisan charcutier traiteur, ça. Hein.
Exactement, ça vient de la région. Ça vient de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un peu un pléonasme parce que pâté croûte, ça vient de Lyon aussi, donc c'est marrant comme ça s'est un peu propagé de partout. Mais Laurier de la Belle Aurore, ouais, des pâtés croûtes, des choses comme ça. Un mélange de viande noble pour Noël, du riz de veau, des bécasses, on n'a pas trop le droit, mais des gibiers, du foie gras, des choses comme ça.
Plus de 20 morceaux différents dans l'oreiller de la Belle Aurore. Yves Condebord, une entrée incontournable pour Noël.
Une entrée incontournable pour Noël, d'autant plus cette année, elle va être plus qu'incontournable, parce qu'on est en train de vouloir nous la supprimer, même la capitale soi-disant de la gastronomie est en train de vouloir l'enlever
on a
de ses cantines,
il y a 15 jours,
ses restaurants.
Lyon,
c'est le foie gras.
Des cantines et des restaurants et des réceptions officielles à la mairie.
Moi, je trouve ça totalement dramatique qu'on fasse un amalgame entre l'agroalimentaire, l'industrie alimentaire, et je suis d'accord qu'il faut qu'ils arrêtent, et laissons nos petits artisans travailler dans les règles de l'art et de le respect de l'animal. Donc nous, c'est le foie gras, aussi bien chaud que froid, mais à Noël, c'est souvent chaud. Le foie entier, avec des gros raisins, un trait de vinaigre, salé et poivré, on le met au four dans un genre de papier aluminium comme une papillote pendant 5-10 minutes. On le sort, on va le laisser tirer à température pour que la température monte au centre. Après, juste deux tranches posées sur un pain maïs. C'est le petit Jésus en culotte courte en Béarn.
Ou un foie gras cru, effectivement, juste poêlé 30 secondes avec de la mangue, par exemple. C'est un très bel accord, ça, si on aime le sucré salé.
Très bel accord, parce que voilà, ça amène aussi, la mangue amène de l'acidité et du crémeux. Ça marche bien.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Nous voilà de retour à table avec Marie-Victorine Manoa, la chef des Lyonnais. C'est le restaurant parisien d'Alain Ducasse qui célèbre une belle cuisine lyonnaise dans le 2e arrondissement de Paris. Yves Condebord, toujours des nôtres. On continue avec nos idées de menu de Noël. Et vous aussi, Charlotte, hein, mettez votre grain de sel.
Ah oui.
Noël lyonnais versus Noël béarnais. Et rassurez-vous, amis auditeurs, hein, vous pourrez mixer, bien entendu. Noël traditionnel, vous nous l'avez dit chez vous, Marie-Victorine, il y avait une volaille de fête. Et il y a aussi ce plat emblématique qui arrive à l'instant au Studio Coluche, un plat que vous venez de réaliser. Racontez-nous
oui,
ce que
voilà.
c'est.
Oui, voilà. Alors ça, c'est un gratin de cardon à la moelle. Moi, j'aime bien faire donc Noël pour nous. Pour moi, c'est la volaille. On a des volailles bien grasses, des pintades. Je récupère les os et on fait un bouillon avec les os. Je ne béchamel pas mon gratin. Je mets pas de crème ni de laine,
pas
choses
de
comme
roux.
Ça. Je mets un petit roux pour épaissir un petit peu le jus de volaille. Pas de chapelure, rien. Parce que j'ai eu l'habitude de le manger comme ça, vraiment brut, le cardon cuit dans la graisse de pintade, ce petit jus de volaille un tout petit peu épaissi, la moelle et un fromage d'alpage, pas trop vieux pour pas que ça tranche, un fromage jeune plutôt.
Quel fromage d'alpage là vous avez mis ?
Là on a du Beaufort, mais ça peut être ce qu'on veut.
On va expliquer cette recette aux auditeurs qui ne connaissent pas forcément le cardon. Là on est vraiment dans la recette traditionnelle des fêtes de Noël dans la région Rhône-Alpes, dans la région lyonnaise. Le cardon c'est une sorte de grande tige qui est de la famille de l'artichaut,
c'est ça. Hein,
qu'on va cultiver, qu'on fait pousser et qu'on va faire blanchir.
Exactement.
Pour casser une partie de son amertume.
Mmh.
On l'enrobe avec des cartons ou avec des papiers pour qu'il blanchisse. Ouais. Il monte assez haut, hein, ça monte à plus d'un mètre, 1,20 m, 1,50 m de haut, facile. Ouais. Et ensuite... On l'épluche un peu, il y a un peu de boulot quand même, et on le met en bocal pour le retrouver cuit au naturel. C'est ça
c'est
qui est
ça,
agréable.
C'est un peu laborieux. Alors nous, on l'épluche en direct, hein. Mais à la maison, c'est peut-être un petit peu laborieux, c'est un gros travail. On peut le trouver en bocal facilement. On évite un peu les conserves, je trouve que ça donne un goût un peu... Le bocal en verre, c'est peut-être mieux.
Alors j'en ai parlé la semaine dernière parce que c'était mon goût de la semaine. J'avais mangé un gratin de cardon en famille et le vôtre effectivement. Eh bien on retrouve cette rusticité, ce côté traditionnel et puis une belle version gastronomique quand même qui donne un équilibre.
Ce qui est bon c'est dans le plat quand même. Il faut le manger dans le plat.
Avec la moelle c'est parfait. Hein. Franchement avec la suavité de la moelle là c'est fantastique.
Oui et puis c'est surtout très pertinent. C'est qu'il n'y a pas de rajout de corps gras comme de la crème. On est vraiment sur l'onctuosité de la moelle, la liaison de la moelle avec le cardon. Et on a le cardon qui est très présent au palais, qui amène une longueur de palais qui est très agréable.
Et ce qui est agréable aussi, c'est effectivement, vous l'avez dit Marie-Victorine, ce sont des cardons frais. Et même si, moi j'adore hein, le cardon cuit au naturel, mais il y a quand même une différence entre le frais et le cuit au naturel.
C'est la période, hein, donc c'est aussi pour ça qu'on en cuisinait pour Noël, je pense. On le trouve maintenant, on le blanchit comme vous avez expliqué au mois de septembre. Et octobre, novembre, décembre, voilà, on trouve du cardon. Après, il commence un peu à noircir, donc...
Vous retrouverez la recette, chers auditeurs, sur notre site europe1.fr et en vous abonnant également à la newsletter sur europe1.fr. D'autres idées de recettes avec vous, Marie-Victorine, Charlotte et Yves. Noël, ce sont les volailles, nous sommes d'accord. Il n'y a pas que des poules de luxe.
Non, puis c'est vrai que là, je dois reconnaître que la région de Marie-Victorine fait sans doute les plus belles volailles de France. C'est une région où on a la chance d'avoir des produits d'exception. Alors chez nous, dans le Béarn, on a vraiment une volaille traditionnelle pour la Noël, c'est la dinde. On est resté vraiment sur ce produit-là. Et on a une façon de la préparer qui est assez intéressante parce qu'on la poche. Alors, bien sûr, c'est une dinde au départ qui est farcie. On la farcie avec une farce. On prend un peu de chair à saucisse avec du pain trempé dans du lait, un peu de riz, des marrons bien assaisonnés. On farcit notre dinde. Et après, on la met dans un grand faitout couvert d'eau, une garniture aromatique, un peu de thym, un peu de laurier, des carottes, des poireaux, un clou de girofle, quelques baies de genièvre. On va la faire cuire tout doucement, sans grosse ébullition, pendant pratiquement 2 heures. Et on la laisse reposer dans sa cuisson. Et la veille, donc le 24 au soir, on les goûte, on la sort. Voilà, on va la laisser toute la nuit au réfrigérateur, comme ça, sans hors de son liquide. Et au moment de passer à table, une heure et demie avant, un four à 150 degrés, on la met au four.
Enfin, gros, ça prend de la place, la dinde, hein, quand même.
Ça prend de la place.
Faut pas un mini-four. Hein.
Voilà, faut pas un mini-four. Mais l'avantage de la faire pocher puis rôtie, oui, on va garder toute son onctuosité.
Et le moelleux.
On c'est va ça. Garder tout le moelleux. Et une fois de plus, si on est un peu en retard sur les entrées, si on a traîné, si on a discuté, on garde une viande qui est croustillante et très moelleuse. Mais le poché rôti est super intéressant.
Et vous allez parler à beaucoup de monde en disant ça, parce qu'il y a de plus en plus de dindes qui sont mangées en France à cette période de l'année. D'ailleurs, je crois qu'on est le deuxième producteur mondial. Et là, en ce moment, il n'y a rien moins que 2 millions de dindes qui vont être dégustées en France à Noël.
Oui, c'est les traditions. Ouais. Je pense que c'est assez classique du repas de Noël de la paysannerie.
Mmh. Là, et c'est rassembleur. Alors, il faut être
c'est
nombreux.
C'est de la
taille
aussi. Hein, c'est plus mettre une dinde. Bah, ça évite de faire plusieurs volailles. Hein, disons que
c'est vrai.
Et puis c'est budgétaire aussi.
Puis je pense que c'est aussi un produit qu'on ne consomme pas le restant de l'année. Donc on l'apprécie d'autant plus sur ces repas de fête. Et c'est vrai que c'est un plat de partage. Voilà, parce qu'il
mais il ne faut pas être deux pour manger une dinde, ni quatre. Donc il y a d'autres alternatives. Il y a quand même la pintade chaponnée, si on veut. La poularde, bien entendu. Moi, je trouve que la poularde, c'est le bon entre deux, en fait, entre toutes ces volailles de fête. Parce que même si on la surcuit un petit peu, elle est tellement grasse qu'elle ne sera jamais sèche, la poularde. C'est ça que j'aime chez elle.
Il y a aussi une petite astuce par rapport à la poularde ou d'autres volailles, c'est de décoller avec sa mère en partant du cou, décoller la peau de la chair délicatement. C'est assez facile à réaliser. Et de prendre un beurre. Alors, soit vous prenez carrément un beurre nature ou un beurre aromatisé avec du persil, de l'ail ou au sapin, pourquoi pas Charlotte. Et vous glissez le beurre entre la peau donc, et la chair. Voilà, vous le faites, vous l'amassez. Le beurre va se répartir et vous la rôtissez. Et pendant le rôtissage, le beurre va fondre, va nourrir les chairs, et ça vous permet aussi d'avoir encore une volaille très onctueuse et très soyeuse, et qui peut aussi attendre un peu plus longtemps.
Mais alors, ce que j'aime, moi, c'est le jus, quand même.
Le jus.
Comment vous faites
Alors, le jus, c'est vrai que ça, tout le monde pense qu'un jus, c'est compliqué à réaliser, mais c'est très facile. Alors, ce qu'il faut, c'est avoir déjà le bon contenant pour faire un bon jus.
Pour déglacer,
c'est vrai,
comme ça.
Voilà, quand on fait des volailles, bien souvent, c'est la cocotte en fonte traditionnelle qui est l'idéal. Quand vous rôtissez vos volailles, il y a plein de petits sucres qui vont tomber sur le fond de votre cocotte. Et c'est-à-dire qu'une fois que votre volaille est rôtie, là, vous la retirez.
Ou dans un grand plat gratin aussi.
Ça peut être dans un grand plat. Oui, mais c'est quand même mieux de le faire pour avoir un jus, ce qu'on appelle déglacer.
Donc en cocotte, alors.
Dans la cocotte, vous déglacez. Alors, si vous voulez déglacer, y amener un peu d'acidité, vous pouvez déglacer avec un peu de vin blanc. Si vous voulez rester assez nature, vous déglacez avec de l'eau.
Avec de l'eau, oui.
Et une fois que c'est déglacé, avec une cuillère, vous grattez le fond de votre cocotte. Vous allez décrocher tous ces sucres qui, en fin de compte, ça va être votre jus qui va se réaliser assez naturellement.
Et si je peux me permettre, je pense qu'il y a aussi un accent à mettre vraiment sur la ail, garniture aromatique, échalote. Ouais. On a tout ça à la maison, mais ça, vraiment, vraiment, ça apporte le goût du jus. Et effectivement, déglacé. Et c'est rien en fait.
Du jus et du goût. Et bien c'est ce qu'on trouve justement dans votre cuisine, dans le restaurant Au Lyonnais, Les Lyonnais, le restaurant d'Alain Ducasse. Et c'est vous qui êtes à la tête des fourneaux et des cuisines, Marie-Victorine Manoa. Merci d'être passé à la table
merci
des
beaucoup.
Bons vivants.
Merci.
Je sais
merci
que
beaucoup.
C'est une semaine chargée pour vous, donc merci
belle
d'être
bataille.
Venu ce samedi avec nous.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invité. Alors, des planches du Conservatoire de Nîmes au grand écran. Elle en a fait du chemin. Depuis la fameuse série Un gars, une fille, elle est devenue une actrice chouchou des Français. Elle sait nous faire rire et nous émouvoir. Elle vient nous voir avec une comédie familiale. Le test, c'est Alexandra Lamy, notre invitée. Bonjour Alexandra.
Bonjour, j'étais contente d'être là. J'ai envie de bouffer, j'ai envie de boire, j'ai envie de...
Ça tombe bien.
On est là pour ça. Et c'est pas votre première, vous avez votre ronde serviette ici, vous êtes déjà venu nous voir.
Exactement, hein, avec mon ami Éric Lavenne.
Exactement, réalisateur
que
du film.
Que vous connaissez très bien aussi, bien sûr.
Qui est un fin gastronome et qui cuisine très bien.
Et qui cuisine très bien, oui.
Réalisateur entre autres de Barbecue, de
Retour chez ma mère,
Un tour chez ma fille. Et puis Chamboule-tout aussi, qu'on a vu récemment aussi au cinéma. Alors vous venez nous voir, vous Alexandra Lamy, avec une comédie qui sort le 29 décembre.
Oui.
Ça s'appelle Le Test, une comédie réalisée par Emmanuel Poulain-Arnaud. C'est une comédie dans laquelle vous incarnez une mère de famille de 4 enfants. Tout le monde s'entend bien. Vraiment, c'est un peu la famille idéale parce que les enfants sont sensibles, sont attentionnés. Tout le monde est ouvert sur l'autre. Voilà, c'est une famille généreuse comme on les aime. Et tout se passe bien jusqu'au jour où vous trouvez un test de grossesse positif dans votre salle de bain. Alors là, effectivement, ça change des choses. À qui appartient ce test ?
Va mener son enquête à qui appartient ce test. Juste pour dire, parce que je trouve que Emmanuel Poulain-Arnaud, donc le réalisateur, je trouve qu'il a fait un travail formidable. Il a réussi, en 1h20 à faire une vraie chronique familiale, parce qu'évidemment, il y a ce personnage de femme. Mais je trouve que c'est la première fois qu'on voit, et je salue d'ailleurs ceux qui jouent mes enfants, Mathéo, Chloé, Joachim, qui sont formidables dans le film.
Et de tous les âges,
et qui sont formidables. Et c'est rare d'avoir des rôles où chacun a quelque chose à défendre. C'est une vraie famille. Bon, je ne parle pas de Philippe Catherine.
Votre mari, Laurent, qui est médecin.
Philippe Catherine, mais je voudrais être la Claude Jansac de Philippe Catherine. Je voudrais toujours être la femme de Claude Jansac, de Philippe, dans tous ces films.
Comme de Finesse avec Claude Jansac.
Sinon, Julie va m'arracher les cheveux.
Mais vous avez raison, ça marche hyper bien, votre couple.
On marche hyper bien. Mais parce que, je ne sais pas, j'aime tellement Philippe.
Mais c'est ça aussi, la comédie, les fictions et les acteurs.
Mais c'est la force aussi d'un réalisateur. Parce qu'il y a aussi le fait, évidemment, où c'était très, très bien écrit. Il y avait tout déjà dans le scénario. Mais d'abord, c'est un réalisateur, c'est savoir de bien s'entourer et d'avoir réussi à créer vraiment cette famille. Parce que je trouve que la famille marche hyper bien. D'ailleurs, même nous, on était en période de confinement et de couvre-feu. Donc, on a fait quelques fois des petits restaurants où on devait vite rentrer et courir à 21h parce que c'était le couvre-feu. Mais on se retrouvait en famille avec Philippe et les enfants. Et on avait l'impression d'être vraiment une famille. C'était dingue. Et ça, c'est vraiment la force d'un réalisateur.
Alors, dans ce film qui s'appelle Le Test, qui sort le 29 décembre, vous incarnez donc cette mère de famille de 4 enfants. Ça en fait des repas, hein, j'ai calculé, mine de rien. Ouais. Alors, je vous pose la question, quel est votre goût de la semaine, justement, Alexandra Lamy ?
Alors, le goût de la semaine, écoutez, comme je reviens du Maroc, où je viens de tourner, j'ai mangé beaucoup de couscous et de tagine.
J'ai pris une petite
taille en plus. Oui, c'est comme ça. Et j'adore la bouffe marocaine, vraiment, j'adore, parce qu'il y a un choix de dingue. J'adore même les salades marocaines, les tagines. J'ai découvert un tagine de chèvre. Alors là, bon, évidemment, il y a tous les végétariens qui vont me sauter dessus, mais qui est extraordinaire.
Le chevreau, c'est délicieux.
Mais c'est délicieux. Tagine de chèvre que je ne connaissais pas, c'est une spécialité de Merzouga, et donc du côté du désert, et c'est extraordinaire. Des couscous magnifiques, des salades, des poissons, parce qu'après on était à Casablanca, où on va au marché central et on choisit son poisson et on vient vous le servir.
Vous y retournez,
c'est magnifique. Non, là je vais partir à Abu Dhabi pour terminer ce film. C'est un film d'Éric Barbier.
Vous voyagez.
Ouais.
À Abu Dhabi, dans les Émirats. Hein,
voilà,
c'est ça,
exactement, pour aller voir une course de dromadaire, parce que c'est un film sur les courses de dromadaire.
Sur les courses de dromadaire.
Ouais, je ne peux pas trop en raconter.
Vous reviendrez nous en parler.
Vous en parler, évidemment.
Alors, on parlait du confinement, vous l'avez passé dans vos chères Cévennes. Hein, postez souvent sur Instagram de belles vidéos et de belles randonnées là-bas dans vos Cévennes. Vous en avez profité pour cuisiner et découvrir de nouvelles recettes pendant le confinement ?
Alors, en plus, j'étais quand même. Le premier confinement, j'étais avec ma sœur, mon beau-frère et mon petit-neveu. Et donc, on a beaucoup mangé. Je pense qu'on a fait partie de ceux qui ont fini alcooliques et qui ont pris bien 3-4 kilos de supplémentaires. C'est-à-dire qu'on a commencé les apéros très très tôt. Hein. On a passé de 20h à juste à 16h. C'est pas un apéro vers 16h. Et puis effectivement, on a beaucoup cuisiné parce qu'on avait que ça à faire. Donc on a fait plein de plats. On a tenté, mon beau-frère cuisine très bien d'ailleurs aussi. Et il a tenté plein de recettes. Donc on allait, on regardait. Alors je peux pas vous dire parce qu'on en a fait tellement.
On a de nouvelles idées avec Charlotte parce qu'on rentre dans la saison des mijotés, la saison des morceaux à cuisson longue. Alors on va commencer par les pot-au-feu, Charlotte, racontez-nous.
Mon plat préféré.
Ça tombe bien, bienvenue au club.
J'adore.
Et effectivement, les pot-au-feu, plus généralement ces plats mijotés, sont revenus se tailler une très belle place à la carte des restaurants. C'est fini un peu le temps où c'était des recettes d'origine populaire, où on travaillait les morceaux de viande pas très nobles, on les considérait pas très bien. D'ailleurs, ça avait inspiré une expression, c'est de la daube, ça vient là, donc aujourd'hui c'est fini, on a redécouvert les mijotés parce qu'ils cochent un peu toutes les cases, hein. Ils sont anti-gaspi, hein. On les mange toujours, c'est encore meilleur le lendemain en général, réchauffés. Ils sont pile dans la nostalgie d'une cuisine au lent cours avec les grandes marmites en fonte qui frémissent sur le feu pendant des heures. Ce sont quand même toujours des plats économiques puisque ça consiste dans le travail des bas morceaux pour les rendre plus tendres, plus fondants, parce que les jarrets, les palerons, ça ne supporte pas les cuissons très courtes, hein, quand même. Et enfin, les mijotés, ça convoque toute la famille rassurante de notre patrimoine culinaire. Navarin d'agneau, osso bucco, poule au pot, bœuf à la mode, ou bourguignon, coco vin, poté, auvergnat.
C'est bien ça.
La star de tous, la blanquette de veau avec ses petits champignons, sa petite sauce onctueuse.
Et les oignons grelots.
Voilà, ah oui. C'est savoureux, ça rassure, c'est convivial, surtout par les temps qui courent.
Hein. On parlait de livres de cuisine tout à l'heure pour nos auditeurs. Une idée cadeau, tiens,
oui,
vous pouvez offrir
je vous offre
Alexandra.
Bistrotier de Stéphane Reynaud. Oh, il y a beaucoup de recettes, blanquettes, cassoulet, pot-au-feu, daube niçoise. Oh, c'est de Stéphane Reynaud qui tient le bistrot Oui, mon général, dans le 7e
très belle
à Paris.
Adresse.
Génial.
C'est
formidable, merci.
Aux éditions du Chêne.
Et vous retrouverez les références sur europe1.fr et même adresse pour vous abonner à la newsletter.
Oh non,
vous avez mis du fil, c'est immangeable.
J'adore la fondue, j'aurais jamais fait une connerie pareille.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants.
Et de la tarte au myrtille et de la salade, alors qu'est-ce qui veut boire un coup?
Laurent Bariotte.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Alors si vous avez manqué nos idées cadeaux, livres de cuisine et notre dossier repas de Noël, eh bien vous retrouverez toutes les informations en vous abonnant au podcast sur europe1.fr. Et nous revoilà avec notre chère invitée Alexandra Lamy qui vient nous voir avec une belle comédie qui sort le 29 décembre. Ça s'appelle Le Test. Une comédie familiale donc qui sort mercredi, je le disais. Vous interprétez une mère de famille très aimante, un peu intrusive, mais sans tomber non plus dans l'excès. Je pense que beaucoup de parents vont pouvoir s'identifier avec votre rôle parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de voir ses enfants grandir et de les voir quitter le nid familial. C'est ce qui se passe dans la comédie aussi.
Exactement. Et j'allais dire même plus parce qu'on a eu même le prix des lycéens. Même les jeunes vont vraiment se... C'est la première fois que je trouve qu'il y a un film où tout le monde se retrouve. C'est une projection de toute une famille.
Oui, parce qu'il y a plusieurs âges dans votre famille.
Exactement. Donc ça marche hyper bien. Et effectivement, c'est une femme qui, à un moment donné, a décidé de... C'est elle qui décide de se sacrifier pour ses enfants parce que finalement, ils vont lui dire « Mais nous, on ne t'a jamais rien demandé. » Donc... Mais c'est une femme qui, effectivement, qui, à partir du moment où elle s'est mariée et qu'elle a eu des enfants, elle s'est dit « je vais ma vie, elle est là maintenant, je vais être la mère, donc l'adulte. » Et elle s'est oubliée. Et finalement, en menant cette enquête, elle se rend compte aussi que finalement, elle ne connaît pas si bien que ça sa famille, alors qu'elle avait l'impression que tout le monde venait lui parler, qu'elle, normalement, elle était au centre de tout ce qui se passait. Et que finalement, non. Et puis, elle va aussi, à un moment donné, se désinhiber, se lâcher complètement grâce à un jeune homme qui va lui rentrer aussi dans c'est la vie, dans le centre trop spolié. Mais en même temps, c'est... Voilà, je trouve, encore une fois, je trouve qu'Emmanuel, il a fait un travail formidable sur résumer une chronique familiale en 1h20 où tout le monde est formidable et tout le monde se retrouve là-dedans, effectivement.
Ça fait quoi votre enfance, vous, par exemple, votre rapport à vos parents? Est-ce que vous leur cachiez des choses? Enfin, forcément, comme tous les enfants, mais est-ce que la parole était libérée? Est-ce que vous vous confiez à votre père, à votre mère?
Nous, on a eu la chance avec ma sœur, je dis nous, parce que effectivement, d'avoir des parents avec qui on pouvait parler, parce que nos parents ne pouvaient pas parler comme ça avec leurs parents.
Hein,
donc on peut parler de tout. Hein. Nous, on a été élevés où la parole était très importante, et surtout à table, parce que justement, c'est pour ça que, parce qu'à l'époque de mes parents, enfin, mon père me disait, nous, à table, on n'avait pas le droit de parler. C'était le contraire. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, c'est justement à table qu'on
parle.
La
parole circule à table, maintenant.
Exactement.
Mais moi, je vous entends, c'est totalement ça. C'est vrai qu'il y a eu des générations d'avant nous où la parole n'était pas libérée du tout. Et c'est grâce à la table qu'au moins ma génération, on a pu se libérer et dire des vérités à ses parents, voire des fois débattre avec virulence. Mais le fait de manger, de s'asseoir, je trouve qu'il y a une forme d'égalité verbale pour tout le monde.
Exactement. Non, mais complètement.
Vous semblez toujours souriante, en pleine forme, pétillante. Alexandra Lamy, c'est quoi votre recette, votre secret?
Je sais pas.
Elle veut pas le donner.
Non, mais je le donne.
C'est un plat. Ça,
vous êtes pas tout fait.
C'est un bon, mais ça fait peut-être partie de ça aussi. C'est de. Moi, je pense que. Enfin, je trouve que souvent les gens qui aiment la. Qui aiment bien manger, la bonne bouffe, qui aiment manger, qui aiment boire, qui aiment machin, sont des bons vivants. D'ailleurs, on dit souvent, ce sont des bons vivants.
Ouais, c'est ça.
Donc il y a quelque chose de...
On ne dira pas le contraire ici.
Mais non, mais c'est vrai, quand on se frustre de manger, c'est terrible de se frustrer.
Ouais,
de...
Mais c'est vrai que la table est un tel moment de bonheur,
oui,
de partage, que les gens qui se comportent avec précision et avec beaucoup d'exagération à la table, souvent sur des grands vivants.
Mais c'est vrai, c'est important la table.
Noël approche justement à propos de la table. Vous allez cuisiner ou vous allez être invité?
Oui, nous, de toute façon en général on fait beaucoup de Noël. ça commence du 20 décembre jusqu'au 8 janvier à peu près. Donc on fait beaucoup.
C'est juste que la galette remplace la bûche à un moment.
Oui, voilà, c'est ça. Et ça c'est ma mère. C'est le Noël, on le fait chez mes parents. Donc c'est ma mère qui effectivement fait tout. Alors vraiment le repas de Noël, la dinde, le machin, les fruits de mer, parce qu'on adore se faire des petits plateaux de fruits de mer au début, avec tous les
desserts. Oui, ça ouvre l'appétit, voilà. Ouais, puis c'est léger, on a l'impression que c'est léger.
Oui, hein. On a l'impression que c'est léger, mais c'est pas vrai.
Je parlais de la bûche. Il y aura une bûche à votre
bien
repas de Noël ?
Bien sûr, évidemment qu'il y aura une bûche. En général, c'est la belle-mère de ma mère qui fait, de ma sœur qui fait la bûche. Donc voilà.
Elle l'a fait bien.
On lui met des notes.
Elle l'a fait très bien. C'est toujours la même ou pas ?
C'est toujours la même. Elle l'a fait très très bien.
Alors moi aussi, j'avais dans la famille une tante qui en faisait une très très bonne avec du biscuit rose de Reims et du chocolat. Elle est à quoi la vôtre ?
Ou elle l'a fait un peu glacée avec une glace à l'intérieur vanillée. C'est très très
bûche glacée.
Ouais.
Et ben voilà une bûche qui va rentrer dans le studio Coluche pour vous, Alexandra Lamy, et pour les auditeurs, une bûche que vous pourrez refaire à la maison, parce qu'elle n'est pas venue toute seule, cette bûche. Elle est venue avec quelqu'un qu'on avait envie d'avoir à cette table, un pâtissier boulanger qui va nous convaincre de la faire à la maison. Il est originaire de Mayenne. Après un petit tour à Londres, il est revenu en France pour ouvrir une boulangerie à Paris qui s'appelle Saint. C'est Anthony Courteil. Bonjour Anthony.
Bonjour à tous.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être là, et Charlotte Langrand a bien étudié votre parcours, Anthony.
Okay.
Oui, c'est ça, vous avez commencé par la boulangerie, ensuite vous avez fait un grand détour par la cuisine chez Alain Dutournier, puis à l'atelier Guy Martin, et ensuite vous êtes revenu à vos premières amours à la boulangerie.
À la boulangerie, exactement. Et du coup, là, voilà, on a... La boulangerie s'appelle Saint, c'était pour un petit peu... Ouais, on a un petit peu décrié le pain comme quelque chose de pas bon depuis une trentaine d'années. Je pense pas que le pain soit mauvais, c'est juste que les méthodes et les matières premières du pain ont un peu changé. Le but de la boulangerie, c'est de revenir à des méthodes beaucoup plus traditionnelles, fait au levain, que des blés anciens. Pétrissage à la main et
fermentation
longue, exactement, et redonner un peu remettre un peu en avant le goût du pain, et puis le bon pain aussi, c'est très important, quoi. Surtout en France où c'est quelque chose qui est assez ancré dans nos repas.
Alors vous faites du pain, mais pas que, vous faites également une très belle bûche qui vient d'être testée en direct par Alexandra Lamy.
Bon.
Alors verdict, ouais, ça vous plaît,
c'est très bon, j'adore.
Alors on vous a mis au défi, tiens, Anthony Courteil, justement, de faire une bûche maison à la portée de tous pour cette année, pour nos auditeurs. Alors racontez-nous ce qu'on peut faire. On connaît tous la bûche classique, traditionnelle, qui est la bûche roulée. C'est une cousine de la bûche roulée ?
C'est une cousine de la bûche roulée, en fait. Parce que la difficulté, quand on veut faire sa bûche maison et qu'on n'est peut-être pas pâtissier dans l'âme, la difficulté, c'est souvent le biscuit roulé. Du coup, l'idée, c'est d'acheter ce qu'on appelle du biscuit cuillère. Ces biscuits cuillères, c'est de légèrement les imbiber, comme on fait un tiramisu, si vous voulez.
À la place de la génoise ?
Exactement.
Ah, c'est malin, ça.
En fait, cette bûche-là, si vous savez faire un chocolat chaud, vous allez vous en sortir, en fait. Il y a juste une cuisson à faire. Enfin, une cuisson. Juste faire chauffer un peu de crème, du lait. On va faire ce qu'on appelle une ganache, qu'on verse ce lait et cette crème qu'on va verser sur du chocolat. On va obtenir une ganache. Les biscuits cuillères qu'on a achetés, eh ben, on va juste les mettre à tremper dans un peu de sirop. Mmh. Ensuite, c'était un peu un baba, façon de parler, on va les mettre sur un film alimentaire, les uns à côté des autres. Et ensuite, on va mettre notre ganache dessus, au chocolat en l'occurrence, pour celle-ci.
Mais pour que les biscuits adhèrent les uns aux autres, vous ne rajoutez rien ?
Un tout petit peu de gélatine ou d'agar-agar. Ça, c'est au choix de la...
C'est de la poudre d'algues, voilà.
Que vous mettez dans le sirop, tout simplement.
Qu'on met un peu dans le sirop, justement, de manière à ce que les biscuits collent et que ça adhère et que ça tienne un peu.
Il a quoi, redites-le, le sirop ?
On l'a aromatisé pour cette bûche à la fleur d'oranger. Après, libre à chacun de faire à l'arôme qu'il veut. En
avec
fait.
Ses petits quartiers de clémentine aussi.
Et des quartiers de clémentine à l'intérieur. Après, tout simplement, on a notre ganache, nos quartiers de clémentine. On le roule comme une bûche classique. Puis après, propre à chacun de faire les décos qu'il a envie de faire.
Il faut que ça prenne quand même tout ça.
Alors, ouais, bien sûr. Une fois qu'elle est roulée, il faut la laisser quoi ? Une demi-heure, une heure au frigo, de manière à ce que la gélatine fige et que la ganache prenne aussi, de manière qu'elle durcisse. Et puis après, vous terminez votre déco. Pour être sûr, une heure et demie. Comme ça, vous êtes sûr que ça tienne. Ouais.
Et elle plaît à Yves Courdebord parce que, regardez, il ouvre une bouteille justement pour célébrer votre bûche. Et il offre un verre à Alexandra Lamy. On avait un très bon gamay. Alors, un morgon. Oui.
Tout à l'heure, on a bu un morgon de la famille Lapierre. C'est fait par la fille Camille, qui est remarquable. Et là, sur un mousseux. Voilà, c'est pas très onéreux. C'est un mousseux totalement naturel. Vous allez voir, qui est très, très sur le granit et aussi qui est cépage gamay et qui est très agréable avec l'accord de la bûche. Alors, je dois vous avouer.
Je vais le goûter.
Alexandra Lamy, avec modération, mais avec plaisir.
Alors, par rapport à la bûche, alors moi qui suis un anti-bûche à base de mousse, je déteste ça et j'adore la bûche traditionnelle roulée. Je pense que les yeux fermés, je dis bûche roulée traditionnelle.
Bien sûr. Voilà.
Okay. Mais c'est vrai que le biscuit à la cuillère et la génoise sont quand même de cousins, on est sur des textures un peu similaires et des goûts similaires.
C'est une très bonne idée qui va faire justement des émules, j'en suis certain. Vous retrouverez, chers auditeurs, la recette sur europe1.fr parce que vous êtes sympa, Anthony Courteil, vous nous l'avez offert cette recette, vous de la boulangerie Saint. Mais dans votre boulangerie Saint, dans le 10e arrondissement de Paris, quelle est la bûche que vous aurez dans votre boutique ?
En fait, on va juste faire une bûche qui est C'est un peu la contre-bûche de tout ce qui est fait habituellement. C'est-à-dire qu'on va faire une bûche qui sera exclusivement faite avec une brioche feuilletée, des morceaux de citron cédrat confit dedans et un peu de crème de marron. On ne fait pas de bûche. Voilà, c'est un peu la bûche qui est faite pour les gens qui n'aiment pas trop les bûches de manière générale. Voilà, c'est une bûche boulangère.
Elle va vous en commander 2 pour 12, Alexandre.
Voilà, elle est honte,
merci beaucoup, Anthony, d'être venu à la table des bons vivants, la boulangerie Saint, donc dans le 10e arrondissement.
Ouais, bah, je viendrai vous voir.
Et vous retrouverez la recette sur Europe1.fr.
Europe 1. La table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Bon samedi midi à table avec nous, bonne cuisine si vous êtes en train de la faire. Nous sommes avec Alexandra Lamy, notre invitée. C'est un plaisir toujours de vous avoir à table.
Moi merci.
Parce que non mais vous faites honneur, regardez, la bûche,
mais moi,
le morgon, le petit mousseux.
C'est pas pour rien qu'elle a son rond serviette, Laurent.
Exactement.
Exactement.
Et allez voir Alexandra Lamy au cinéma le 29 décembre dans une comédie familiale d'Emmanuel Poulain-Arnaud. Ça s'appelle Le Test. J'ai eu la chance de voir sur grand écran ce film avant qu'il sorte. Une comédie donc. Et dans ce film, vous avez changé de couleur de cheveux. Vous êtes une mère de famille, on le disait, de 4 enfants. Vous êtes devenue rousse. Bon, il y a une raison quand même.
On dira caramel, puisque nous sommes un petit peu dans
au
le...
Au burne.
Oui, en fait, c'était un désir du réalisateur et qui avait envie que je change un petit peu. Et du coup, il m'avait vu dans un film où j'avais les cheveux rouges. Et il m'a dit, bon, peut-être pas aussi rouge, mais il me dit, j'aimerais bien essayer un peu rousse. Et on a essayé. Et je trouve que ça marche. Et je trouve que toute la famille, on est une famille de roux, puisque nous sommes un peu roux. Et ça marche hyper bien. Ça fait une unité.
Un
dans
camailleux.
Cette... Exactement, dans cette famille. Et c'est pas mal aussi en tant qu'actrice, parce que c'est vrai que parfois, ça nous permet aussi de rentrer dans un personnage.
Alors, on le dit, dans ce film, vous venez de découvrir un test de grossesse positif dans votre salle de bain. À qui est ce test? Eh bien, c'est toute l'enquête qui va être menée par vous pendant ce film, Alexandra Lamy. C'est un film qui parle aussi du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Vous êtes arrivé à Paris, vous, à l'âge de 21 ans. Quel souvenir vous gardez de vos premiers pas dans la capitale?
Alors, mes premiers pas, justement, je me rappelle la première fois que j'ai posé mes valises, je suis sortie, donc il devait être 22h, 23h pour découvrir Paris, parce que moi, je viens vraiment de la campagne. Et donc, je suis arrivée, il était 22h, 23h, j'ai pris la rue de Rivoli, et je suis arrivée à la place de la Concorde, et d'un coup, j'ai vu un monde, il était, je sais pas, ouais, 22h, 23h, un monde de dingue, tout était illuminé, et je me suis dit, waouh, la ville, c'est merveilleux.
La ville lumière.
La ville lumière et plus plein de monde. Parce que nous, en général, dans une petite ville à 19h, il n'y a plus personne. Donc là, d'avoir autant de monde à 22h, et en même temps, avec un vertige énorme, en me disant, mais c'est tellement grand, mais comment je vais réussir dans ce métier? Parce que je ne connaissais personne, j'avais un accent du Sud à couper au couteau, c'était horrible. Même si j'apprenais, grâce au conservatoire, à jouer sans accent. Mais
c'était comment l'accent du Sud?
C'était bonjour, je m'appelle Alexandra. Mais en même temps, c'est comme ça que j'ai réussi à faire la première publicité, pub Marie d'ailleurs, de Patrice Lecomte.
C'est vrai.
Parce que justement, j'avais l'accent du Sud quand je parlais, et puis dès que je jouais, je ne l'avais pas. Alors il me disait, bah, attends, vas-y, parle un peu. Oh, joue, oh, c'est marrant. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait ma première publicité.
Le film, Le Test, sort le 29 décembre au cinéma. Vous avez fait une tournée dans toute la France, dans plusieurs villes. Vous êtes allé dans le Gard, votre région d'origine, le présenter à la famille, par exemple.
Évidemment, toujours. Je vais toujours à Alès présenter mes films. Enfin, d'ailleurs, je dis Alès, le Gard, parce que Nîmes aussi. Et souvent Montpellier suit. Mais oui, bien sûr, j'adore aller le montrer forcément dans ma ville, évidemment. Et puis là, en plus, vraiment, encore une fois, parce que j'ai fait plein de films, etc. Mais celui-là, je trouve qu'il est particulièrement bien. Parce que justement, c'est le genre de film, derrière, on a pas mal de débats. Alors, on ne peut pas en parler avant, parce qu'on pourrait spoiler trop de choses.
Mais je ne peux pas tout dire, là, justement.
Mais en fait, c'est génial d'aller le voir en famille, parce que justement, il y a des bons débats à avoir
ça
derrière.
Ça lance des discussions, ensuite.
Ça lance des très bonnes discussions.
Alors, vous aimez passer du temps entre le Gard et l'Ardèche, une belle région de marrons, s'inspirer notre bistronome en chef Yves Candebord, qui veut nous parler de marrons aujourd'hui, avec de belles recettes, autres que le marron glacé qu'on a évoqué tout à l'heure au début de l'émission.
Oui, tout à fait. Mais moi, je suis un peu comme vous, je suis un passionné de marrons. C'est un produit de fin d'année, de saison, qui est toujours très agréable. Moi, ce que je préfère, c'est ceux de l'Ardèche.
Mais évidemment.
Ah, tout le monde n'est pas parfait.
Bah oui, mais évidemment, c'est les meilleurs, quand même. Alors, marrons, c'est l'Ardèche, ça.
Et chaque année, je m'amuse à faire des recettes. Cette année, on a fait 2 recettes spécifiques de marrons pour 2021.
Alors la première, on vous écoute, on va commencer avec un velouté.
Voilà, on va commencer par une recette à base salée qui est très facile. Alors c'est vrai qu'on sait qu'en cuisine, hein, marier 2 produits de saison, en général ça twiste toujours, ça marche toujours. Donc on fait un potage avec 2 tiers de marrons, 1 tiers de céleri rave. Les marrons, si on les a entiers, si on les fait griller, si on les épluche, on a un goût de torréfaction qui est intéressante. Mais si on n'a pas le temps, il ne faut pas avoir peur d'aller voir un magasin de produits congelés et d'acheter des marrons congelés. Vous les prenez, vous les laissez dégeler, vous les passez dans un four très chaud
justement pour les torréfier, et après vous les utilisez. Vous les mettez dans une casserole, 2 tiers de marron, 1 tiers de céleri, on couvre avec de l'eau, on sale, on poivre, on rajoute quelques épices, un peu de coriandre, un clou de girofle, une anise étoilée, un peu de sel, un peu de poivre, et on va laisser cuire tout doucement. Quand le marron et le céleri commencent à éclater, on prend un mixeur plongeur, ou on le met dans un robot, et tout simplement, on mixe l'ensemble. Et là, vous allez avoir instantanément une petite soupe de marron non crémée, où il y a vraiment le marron qui est puissant, qui est juste soutenu par le céleri rave. Et ça, quand elle est prête, vous le déposez dans une assiette avec un peu d'iode. C'est-à-dire, vous pouvez y mettre quelques morceaux de saumon fumé, quelques morceaux de flétan fumé, ou alors des crevettes crues. Ça marche très très bien.
Mais c'est ça, c'est
facile.
Une belle entrée pour le réveillon de la semaine prochaine. On parlait des idées tout à l'heure. Ouais, voilà une
très
belle
entrée.
Ou alors, si on veut jouer le côté terre, on peut mettre des copeaux de foie gras aussi.
On peut y mettre des copeaux de foie gras. On peut y mettre même en allant sur le fromage, en mettant par exemple à prendre un vieux comté râpé. C'est économique et ça marche tout le temps. Ça.
Côté sucré, alors on a l'image du marron glacé qu'on évoquait, on a l'image aussi du Mont Blanc, hein, ce dessert festif et gourmand. Alors, et vous avez revisité bien cette recette traditionnelle, on
Laurent,
peut dire.
Laurent, vous avez raison, ce Mont Blanc qui est festif et gourmand, mais il est vraiment très gourmand, voire un peu serré. Alors je me suis amusé à le refaire, on a fait une pâte sablée avec dedans des agrumes, orange, citron tout simplement posés dessus. Et on a recouvert avec une mousse de marron qui est faite au siphon, qui est très simple. Laurent, j'ai laissé la recette sur le site d'Europe 1.
C'est une légèreté, là.
Ah ouais, c'est
légèreté. Et surtout, c'est une profondeur de palais. Avec l'acidité de l'agrume, c'est l'exhausteur qui va pousser le marron à son excellence.
Vous retrouverez la recette sur europe1.fr. Ne bougez pas.
Je reste là.
Bon, on reste à table, pourquoi je dis ça? Mais ne bougeons pas, bien sûr. C'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants. Alexandra Lamy. Quel est le goût de votre enfance, Alexandra?
J'en ai deux. Moi, j'ai le riz au chocolat, le riz au lait au chocolat que me faisait ma grand-mère.
Ah, vénard,
c'est original. Mais c'était le vrai riz au chocolat.
Qui est un mijoté.
Et qui est un mijoté, exactement. Et qui était hyper bon. Donc, j'ai vraiment ce souvenir-là de ma grand-mère. Et ma mère aussi, qui me faisait chocolat à la maïzena. Vous savez, c'était un peu, ça faisait un peu comme un fondant au chocolat, mais.
En gâteau ou en crème, vous voulez
non,
dire?
Non, en crème. Voilà, en crème.
D'accord. Ah oui,
la crème chocolat.
Comme un flan entre la crème
exactement,
et le flan. Voilà,
exactement.
Ça.
À la maïzena, ça, c'était très, très bon.
Votre plus beau repas, tiens, Alexandra Lamy.
Oh, mon plus beau repas, ben là justement là quand j'étais au Maroc là, on nous a fait un couscous. Moi j'adore ça.
Ah la cuisine marocaine.
Là, 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 là. Mais magnifique, c'est magnifique la cuisine marocaine. Donc ouais, j'ai très très bien mangé.
Et votre pire repas?
Mon pire repas, c'est t'es chez quelqu'un, donc évidemment, vous ne connaissez pas, donc je ne vais pas donner le nom.
C'est pas un copain.
Non, vous ne connaissez pas, mais qui a fait, c'était vraiment dégueulasse, hein, on peut le dire. Et c'était une blanquette de veau, là, qui était complètement ratée, qui était mais horrible.
Sacrilège.
Mais d'abord parce
dur,
que.
Dur, ferme.
Bah parce que, en fait, le truc, c'est que souvent, le problème de ces plats-là, c'est qu'il faut toujours bien choisir quand même sa viande. Et on a l'impression que quand on fait du mijoté, c'est pas grave si on n'a pas une très bonne viande, parce qu'on se dit avec la sauce, ça va sauver. Mais non.
Non.
Donc la viande n'était pas bonne, et bon, la sauce était mal faite avec beaucoup d'eau. Enfin, c'était.
Bah,
voilà, c'était
vous aurez une belle recette de vraie blanquette de veau dans le livre que Charlotte vous a offert justement tout à l'heure. Quel plat vous emmèneriez sur une île déserte?
Le livre.
Ouais, c'est vrai que. Ouais, par contre, je veux bien amener le livre avec tous les ingrédients, mais comme ça, je me fais plein de trucs sur l'île déserte.
Ça va pas être simple de faire les courses.
Ouais, ça va pas être simple.
Qui sont les invités de votre dîner idéal, Alexandra Lamy?
Oh, mais moi, je vais être tout ça, mais je dirais, moi, c'est ma famille et mes amis.
Voilà, la garde rapprochée.
Bah oui, la garde rapprochée, évidemment.
Et votre adresse secrète?
Et mon adresse secrète, c'est un tout petit, je leur fais un tout petit peu de pub parce que je trouve que c'est super ce qu'ils font, ça s'appelle, c'est rue des Vinaigriers, ça s'appelle Banoï, et ils font des nems comme je n'ai jamais mangé, c'est-à-dire qu'ils font des petites recettes, là j'avais un bœuf saté qui était hyper bon, végétarien, un petit peu à l'omelette, un peu au saumon, etc. Et ils font toute une variété de nems qu'on n'a pas du tout l'habitude de manger et qui sont extraordinaires, ça s'appelle Banoï et c'est rue des Vinaigriers, et c'est vraiment super.
Eh ben on prend l'adresse, on la retrouvera dans la newsletter, tiens, sur europe1.fr. Et le mot de la fin pour terminer, FIM.
Est-ce que je peux en reprendre encore un petit peu?
On vous a fait des doggy bags. Vous voyez la bûche là? Elle est entière,
c'est
là. C'est pour
génial.
Vous. C'est pour
c'est
rapporter
génial.
Chez vous.
Trop bien.
Merci Alexandra Lamy.
Merci beaucoup.
C'est un plaisir. On vous retrouve dès le 29 décembre au cinéma dans la comédie familiale Le Test.
Complètement.
Merci à vous d'être venu. Et vous revenez encore une troisième fois quand vous voulez. C'est toujours avec plaisir.
Plaisir.
Merci à ma fine équipe de m'avoir aidé à préparé cette émission. Vous la retrouverez en vous abonnant au podcast sur europe1.fr. Je vous donne rendez-vous demain à la table du dimanche avec Patrick Timsit de 11h à midi et demi. Oui, moi aussi, j'ai vu son spectacle qui est très drôle et qui fait beaucoup de bien. On en parlera demain. Merci Charlotte Langrand.
Merci Laurent.
À demain dans le journal du dimanche.
Mais évidemment.
De quoi qu'on cause ?
Eh bien, on cause justement de la cuisine de montagne avec Emmanuel Renaud.
Ah, ben ça va prendre de l'altitude. Au revoir Yves Courdebord.
Au revoir Laurent.
Et bon à la Noël, semaine prochaine. Noël. Non, on est encore là la semaine prochaine. On sera là le jour de Noël, le 25 décembre. Vous n'étiez pas au courant, mais je vous le dis.
Et ben voilà,
c'est Grignoux le jour de Noël. On sera ici. Salut tout le monde.